Bonjour, Donald Trump a assuré cette nuit que les discussions en cours avec l'Iran se déroulent très bien, je cite, le tout en avertissant que les États-Unis lanceraient des frappes avec force si les négociations venaient à échouer.
Tal presse le gouvernement israélien de développer rapidement des fonds pour reconstituer les stocks de munitions et d'équipements de l'armée. ONG Cyberwell a signalé à X une nouvelle vague de théories complotistes antisémites accusant les juifs d'être à l'origine des incendies qui touchent actuellement plusieurs pays européens.
Et enfin, les États-Unis appellent leurs ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue en se rendant en Belgique.
Le président américain Donald Trump a assuré cette nuit que les discussions en cours avec l'Iran se déroulaient très bien.
Le tout en avertissant que les États-Unis lanceraient des frappes avec force si les négociations venaient à échouer. Dans un entretien accordé à Fox News, Donald Trump a affirmé que Téhéran continue de nier l'existence de ces pourparlers. Ils mettent tout le temps, ils veulent parvenir à un accord, mais ils n'aiment pas le reconnaître, déclare Donald Trump. Le président américain s'est également montré optimiste quant à une réouverture prochaine du détroit d'Hormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Selon lui, cette réouverture pourrait intervenir par un accord ou par la force. Ils ont vu notre préparation militaire, ils seraient très avisés de conclure un accord, a déclaré Donald Trump. Interrogé sur le délai qu'il est prêt à laisser à l'Iran alors qu'il avait déjà fixé plusieurs échéances ces dernières semaines, Donald Trump a répondu: j'ai encore beaucoup de temps, les gens parlent des élections de mi-mandat, mais ce qu'ils veulent, ce sont des victoires. Fin de citation.
Et de son côté, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a lui aussi déclaré hier que des progrès avaient été réalisés et qu'un accord avec l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Hormuz pourrait intervenir prochainement.
Oui, et ce même s'il restait encore du chemin à parcourir après que Donald Trump et d'autres hauts responsables de l'administration ont laissé entendre qu'un accord pourrait être conclu dans les prochains jours. Des progrès ont été réalisés lors de ces négociations, mais rien n'est encore définitif. Nous espérons que cela se concrétisera très prochainement. C'est ce qu'a déclaré Marco Rubio, journaliste au département d'État. Samedi déjà, Donald Trump avait affirmé qu'un accord était imminent lorsqu'il a décidé de revenir sur sa dernière menace de bombarder l'Iran. Puis lundi, il a déclaré qu'un accord pourrait être signé hier, tandis que son ministre des Finances, Scott Bessent, annonçait que l'accord pourrait être conclu aujourd'hui. Donald Trump a affirmé à Fox News que les discussions avec Téhéran étaient très bonnes. Selon lui, les Iraniens l'auraient appelé pour demander à négocier. Tsahal presse le gouvernement israélien de débloquer rapidement des fonds pour reconstituer les stocks de munitions et d'équipements de l'armée.
Oui, sans donner plus de précisions sur ces pénuries, selon le journaliste du 24 News Yossi Yehoshua, l'armée redoute que ça ne limite ses capacités en cas de nouveau conflit avec l'Iran, des difficultés d'approvisionnement qui toucheraient également les États-Unis. L'Amérique aurait déjà utilisé près de 80% de ses intercepteurs TAD et environ la moitié des Patriotes durant la guerre contre l'Iran. Cette raison, ajoutée aux craintes des pays du Golfe, aurait d'ailleurs poussé Donald Trump à suspendre une nouvelle attaque contre l'Iran, pourtant déjà approuvée. De son côté, le ministère de la Défense israélien aurait également accumulé des dettes face à l'industrie militaire, 20 milliards de shekels de dettes. Les responsables sécuritaires réclament une intervention rapide du gouvernement et préviennent. Le pouvoir politique a été alerté, il ne pourra pas prétendre qu'il ne connaissait pas l'urgence de la situation.
Israël assouplit sa politique de frappe à Gaza. Toute élimination ciblée d'un terroriste ne représentant pas une menace immédiate devra recevoir l'autorisation personnelle du chef d'état-major.
Jusqu'à présent, ces frappes pouvaient être approuvées par des commandants de division ou du commandement sud. Les soldats ne peuvent désormais ouvrir le feu qu'en cas de menace immédiate. Résultat, une seule attaque israélienne a été menée au cours des dernières 48 heures. Cette retenue intervient alors que Washington pousse Israël à appliquer la prochaine phase de l'accord sur Gaza. Après une rencontre tendue avec Nicolas Mladenov et Ariel Lightstone, le gouvernement israélien affirme vouloir éviter toute initiative susceptible de faire échouer le processus. Cela fait suite à l'annonce de Donald Trump ce week-end, selon laquelle un accord aurait été trouvé pour le désarmement du Hamas. Si les responsables américains ont affirmé que le Hamas avait accepté les termes de cet accord, le mouvement terroriste a rapidement démenti. Nous avons parlé de remiser nos armes, pas de les rendre.
Israël détient plusieurs dizaines de membres du groupe terroriste soupçonné d'avoir tenté d'infiltrer des milices palestiniennes soutenues par l'État hébreu à Gaza.
Oui, le Hamas cherche notamment à déstabiliser les forces populaires plus connues sous le nom de Abu Shabab. active autour de Rafah. Cette milice affirme combattre le Hamas et détruire les infrastructures. La mission des infiltrés, collecter des renseignements, semer le trouble dans les rangs des milices et éliminer leur chef. Pour Israël, le soutien à ces groupes locaux vise affaiblir l'emprise du mouvement islamiste sur la bande de Gaza. C'est donc parfaitement logique que le Hamas s'y attaque.
Et le Hamas a transféré une grande partie de ses activités dirigeantes et de ses réunions internes du Qatar vers la Turquie. Selon trois sources anonymes proches du groupe cité par le quotidien saoudien Asharq al-Awsat et relayé par Bosforum.
La majorité des hauts responsables du mouvement terroriste palestinien séjourneraient désormais en Turquie. Les discussions portant sur les négociations de cessez-le-feu, la gouvernance interne et les orientations politiques du Hamas se tiendraient également dans le pays. Le Hamas chercherait parallèlement à rétablir durablement ses relations avec la Syrie. On voit bien que selon cela, ce déplacement ne traduit pas une rupture entre le Hamas et le Qatar. Cela vise simplement à réduire la pression diplomatique exercée sur Doha en raison de son accueil des dirigeants du Hamas. L'attaque également menée en septembre 2025 contre des responsables du Hamas au Qatar avait tué 5 membres du groupe et désormais le Hamas se méfie.
La dernière série de pourparlers entre Israël et le Liban organisée sous l'égide des États-Unis a débuté à Rome hier. Elle devrait se poursuivre jusqu'à demain.
Les discussions portent entre autres sur le contrôle des zones pilotes dans lesquelles les forces libanaises ont pénétré et qui sont censées être exemptes de membres du Hezbollah et d'armes. Au début des négociations, Israël avait insisté pour faire elle-même la vérification suite à la vive opposition du gouvernement libanais. Israël, le Liban et les États-Unis ont entamé des discussions. L'Italie pourrait faire partie de ces pays. Par ailleurs, Israël et les États-Unis s'opposent fermement à la prolongation du mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui doit expirer à la fin de cette année. Personne ne souhaite que cette force multinationale de maintien de la paix soit chargée d'effectuer la vérification finale sur le terrain.
Et Tsahal annonce avoir découvert un nouveau tunnel du Hezbollah de plusieurs dizaines de mètres dans le village de Sarbine, au sud du Liban.
Dans le même temps, une brigade israélienne a localisé un dépôt du Hezbollah contenant des lance-roquettes et des munitions. L'armée a également saisi plusieurs dizaines d'armes, parmi lesquelles des fusils Kalachnikov et des missiles anti-chars. Ces découvertes s'inscrivent dans les opérations israéliennes visant les infrastructures militaires que le Hezbollah maintient au sud Liban malgré le cessez-le-feu. La semaine dernière, Tsahal avait déjà annoncé la destruction près du Beaufort d'un énorme complexe souterrain du Hezbollah utilisé comme centre de commandement et base de lancement. L'armée affirme qu'elle poursuivra ses opérations pour empêcher toute menace contre le nord d'Israël malgré le cessez-le-feu.
L'ONG Cyberwell a signalé à X une nouvelle vague de théories complotistes antisémites accusant les juifs d'être à l'origine des incendies qui touchent actuellement plusieurs pays européens.
Ces analystes ont repéré des publications presque identiques en anglais, en français et en espagnol à propos des faits en Norvège, en France et en Espagne. Des messages qui affirment sans preuve aucune que des juifs auront volontairement provoqué les incendies ou les auraient organisés pour servir des intérêts politiques et financiers. Selon Cyberwell, les contenus liés aux feux en Norvège ont dépassé les 2 millions de vues sur X. Ce phénomène n'est pas nouveau. Des accusations comparables étaient déjà apparues après les incendies de Los Angeles en 2025. Et ceux de Patagonie au début de cette année, mais aussi à la suite du Covid ou d'autres événements violents. Pour Tal Or Cohen Montemayor, la fondatrice de Cyberwell, les détails changent selon l'actualité. Et le mécanisme reste toujours le même. Désigner les juifs comme responsables cachés d'une catastrophe ou les accuser d'en tirer profit. L'ONG dénonce le recyclage sur les réseaux sociaux de mythes antisémites anciens adaptés en quelques heures à chaque nouvelle crise. C'est pour ça qu'on vous pose comme question du jour pour demain. Peut-on vaincre le complotisme antisémite sur les réseaux sociaux? La réunion de concertation européenne sur la crise migratoire survenue à Ceuta jeudi dernier s'est déroulée dans une atmosphère constructive. C'est ce qu'a dit le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska.
Oui, pour réduire la répétition de tels incidents à l'avenir, les partenaires européens ont convenu d'améliorer la communication et d'organiser un meilleur monitoring des informations circulant sur les réseaux sociaux. Selon un nouveau bilan livré par les autorités espagnoles, quelques 72 000 personnes ont pénétré jeudi dernier dans l'enclave enclave espagnole en Afrique du Nord, mais 70 000 en sont déjà ressortis. 72 migrants sont toutefois morts, principalement par noyade. Selon l'ONG Save the Children, près d'un millier de mineurs non accompagnés sont toutefois restés à Ceuta. Le gouvernement espagnol a annoncé une enveloppe extraordinaire de 25 millions d'euros destinée à leur prise en charge. La crise de Ceuta a engendré de fortes tensions diplomatiques entre l'Espagne et de nombreux pays européens, dont l'Italie en tête, qui ont accusé le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez de laxisme aux frontières de l'Europe.
Les incidents antisémites au Royaume-Uni ont augmenté de 21% au cours des 6 premiers mois de 2026 par rapport à l'année dernière.
Cela atteint le deuxième total le plus élevé jamais enregistré pour un premier semestre, selon un nouveau rapport publié ce matin par le Community Security Trust. L'organisation a recensé 1926 incidents de haine antisémite entre janvier et juin, contre 1598 au cours du premier semestre 2025. Ce total correspond à une moyenne de 321 incidents par mois, soit près du double du chiffre enregistré avant l'invasion du sud d'Israël menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Les agressions physiques ont fortement augmenté, avec 135 agressions antisémites recensées, soit une hausse de 82% par rapport à l'année précédente. Les incidents dans les écoles ont bondi de 59% pour atteindre 178, tandis que les incidents liés aux synagogues ont augmenté de 31%. Parmi les incidents les plus graves figure l'attaque terroriste à l'arme blanche perpétrée le 29 avril à Golders Green contre deux hommes d'apparence juive, qui a déclenché 71 autres incidents antisémites au cours des 3 jours suivants.
Un groupe néo-nazi a pris pour cible un hôtel de Sofia où séjournaient plusieurs dizaines d'adolescents juifs italiens.
Les individus des ressortissants bulgares au crâne rasé se sont rassemblés devant l'établissement et ont scandé des slogans nazis et effectué des saluts hitlériens, avec l'intention présumée de pénétrer dans l'hôtel. Les jeunes, principalement issus des communautés de Rome et de Milan, se trouvaient dans la capitale bulgare dans le cadre d'un séjour de 10 jours organisé par un mouvement de jeunesse juif. Aucun détail n'a été communiqué sur d'éventuelles arrestations ou sur l'intervention des forces de l'ordre.
En Espagne, ce week-end, dans l'ancien quartier juif de Cordoue, une croix gammée a été taguée sur le socle de la statue en bronze de Maïmonide.
Maïmonide, qui est sans doute le plus grand penseur juif. Cet acte a été qualifié d'attaque contre le patrimoine et de message de haine d'une extrême gravité. La maire par intérim, Cynthia Bustos, a ordonné à la société municipale de nettoyage d'envoyer ses spécialistes du nettoyage des graffitis sur pierre. C'était lundi matin.
Des archéologues ont mis au jour l'intégralité du sol de la grande synagogue historique de Lituanie à Vilnius.
Dévoilant ainsi des trésors presque effacés par les occupations nazies et soviétiques, et mettant en lumière les divergences entre les juifs lituaniens quant à la manière de préserver et d'interpréter ce qui a survécu. Les habitants qui se promènent dans le centre de Vilnius passent désormais devant une ouverture dans le sol, véritable portail vers le riche passé juif d'une ville autrefois surnommée la Jérusalem du Nord. Pour la première fois depuis 1940, ils peuvent admirer le sol poli et coloré, ainsi que l'ensemble de la chaire de prière de la grande synagogue de Vilna, construite au XVIIe siècle, qui fut l'un des centres religieux, culturels et intellectuels les plus importants pour les juifs de la diaspora. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, entame aujourd'hui une visite officielle en Amérique du Sud.
Oui, Gideon Saar, qui veut renforcer les relations entre Israël et les pays d'Amérique latine et qui a désigné l'année 2026 comme année de l'Amérique latine au ministère des Affaires étrangères. Son déplacement comprend des étapes en Équateur et en Colombie. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue quand ils se rendent en Belgique.
Les États-Unis ont modifié leurs recommandations aux voyageurs concernant la Belgique afin d'alerter leurs ressortissants sur des risques liés à la criminalité, au terrorisme et à des troubles sociaux. Une décision prise dans un contexte tendu entre le gouvernement belge et l'administration Trump. Dans leurs recommandations de voyage, les États-Unis classent les pays du monde entier en 4 catégories. Le premier niveau se résume à un rappel à respecter les mesures de précaution habituelles. Suivez les avis suivants, faites preuve d'une prudence accrue, revoyez vos projets de voyage et enfin ne voyagez pas. Jusqu'ici, la Belgique était dans la première catégorie, elle est désormais dans la deuxième, subissant ainsi le même sort réservé à plusieurs pays d'Europe de l'Ouest depuis 2 ans, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Danemark et la Suède. Pour l'heure, l'Irlande, le Portugal, la Suisse, l'Autriche et la Norvège restent au niveau 1. On en parlera vendredi matin avec l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White. Un homme armé a été interpellé sur un terrain de golf de Donald Trump près de Los Angeles 2 jours avant sa venue. Un important arsenal a été découvert à son domicile. Cet homme a 38 ans, il a été arrêté au Trump National Golf Club de Rancho Palos Verdes en Californie après avoir été aperçu en train de photographier et de filmer les préparatifs de sécurité précédant la visite du président américain Donald Trump, selon l'Associated Press et Fox News. L'autorité fiscale israélienne franchit une nouvelle étape pour soutenir la high-tech.
En coopération avec le ministère des Finances, l'autorité de l'innovation a publié une circulaire pour clarifier le traitement fiscal des revenus liés au marketing. Cela pour donner plus de transparence au système, offrir davantage de visibilité aux entreprises israéliennes et soutenir la croissance de l'écosystème technologique israélien. Une mesure qui intervient alors que la high-tech traverse une période difficile marquée par une hausse du chômage, notamment sous l'effet de l'essor de l'intelligence artificielle. On est revenu sur ce sujet avec Daniel Guggenheim à 8h15. Les fournisseurs de trottinettes et de vélos partagés sont priés de cesser leurs activités dès que possible à Bruxelles.
Oui, tous les opérateurs de trottinettes et vélos partagés présents à Bruxelles ont reçu une lettre officielle de Bruxelles Mobilité. La région les invite à cesser leurs activités dès que possible après l'annulation de leur licence d'exploitation par le Conseil d'État. C'est ce que relate le média bruxellois néerlandophone Bruse ce matin. Les trottinettes et vélos en libre service devront avoir disparu de l'espace public de la capitale d'ici le 1er septembre prochain, mais dans les faits, la région invite en réalité les opérateurs Dot, Bolt et Voy à cesser leurs activités sur la capitale dès que possible. Ils s'exposent d'ailleurs à des sanctions en cas de non-respect des délais imposés, toujours selon Bruse. Des voix s'élèvent néanmoins parmi les opérateurs lésés, mais aussi chez Touring et chez Voreut pour préserver au moins les vélos partagés à Bruxelles dans l'intérêt des utilisateurs bruxellois.